Vous écoutez Les Contes de la Cité Ouest. Quatrième épisode. Maman de jour, maman de nuit.
Ma maman de jour, c'était Mona Moutineau. Donc, j'étais collée à ces deux garçons depuis très jeune. Donc, j'allais à midi manger et j'allais l'après-midi faire les devoirs et puis jouer avec eux. Donc, Christophe était un peu comme moi, à toujours vouloir faire de la découverte, faire des cabanes, aller jouer dehors, comme ça. Et Christian était souvent à lire le journal et à jouer avec son microscope, faire les choses minutieuses, et puis nous, on criait à côté, voilà.
J'ai connu Mona parce que je cherchais une maman de jour, et ma fille jouait toujours avec les garçons dehors. Et ma fille, elle était assez garçon, donc elle jouait toujours avec Christophe et Christian. Et puis un jour, j'ai discuté avec Mona, et elle m'a dit, écoute, si tu veux, je garde ta fille. Alors comme je travaillais à 60%, 70%, c'est elle qui gardait ma fille. Ma fille était plus garçon que fille parce qu'elle jouait qu'avec les garçons tout le temps. Et puis c'était vraiment une personne vraiment très 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 gentille, très douce, très gentille, mais très autoritaire quand même. Elle avait beaucoup de caractère. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait ce qu'elle voulait de ses enfants. Voilà. Après, elle a eu un petit problème avec sa sœur, puisqu'elle a perdu sa sœur. Elle a pris Jonathan, un garçon en plus, qu'elle a pris chez elle. Sa sœur est décédée et elle a gardé quelques années son neveu.
Vraiment très proche, mais moi j'étais collée à eux, donc c'était pas évident. Après, je me rappelle aussi qu'avec Christophe, une fois, on se faisait des petits bisous dans son lit. On était tout petits, hein. Parce que normalement, Julien, c'était mon petit copain de l'époque. C'était mon amoureux, mon premier amoureux. Après, voilà, je sais pas.
Oui, il y a une autre histoire, là. C'était il y a très longtemps, la petite école et tout. Je me rappelle qu'avec avec Zouz, on avait pu sortir. Je pense que ça devait être l'été, tu sais. C'était genre 19h et tout, mais tu sais, on devait être jeunes, hein, parce qu'on était là, oh, on est encore dehors, c'est 19h et tout, c'est un truc de fou, on n'en pouvait plus et tout. Et puis du coup, je me rappelle qu'on avait des sucettes, on était tout contents, tu sais. Genre, on était là, on se regardait, ouais, on mange des sucettes et tout, c'est 20h, on était trop fiers, parce qu'on était encore dehors et tout, puis on était super jeunes. Ça, c'est vraiment, ça, je me rappelle encore, comme si, pour aller se tomber. De toute façon, à la petite école, on a fait toutes les petites conneries qu'on a pu faire, quoi, tu sais, genre casser les vitres, prendre les mégots par terre, fumer les mégots, tu sais. Tu me diras, c'est dégueulasse, hein. Mais ouais, on faisait ça, on récoltait plein de mégots, puis on fumait les mégots. Ah, j'ai un mégot super long. Et on fumait ça, quoi, c'était horrible, quoi. Mais
L'immeuble, toutes les couleurs, derrière, il y avait une maison un peu abandonnée ou un local où on lançait des trucs et puis tout d'un coup, une vitre s'est pétée. Ça, on était avec Christophe et quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus qui. Voilà.
Je crois que je les ai aussi cassées, ces vitres.
Ah bah c'était peut-être avec toi alors.
C'est bien d'avoir cassé des vitres.
Ouais. Et moi j'avais pas l'habitude de faire des conneries, mais c'est vrai que peu.
Quand ma mère bossait à Genève et qu'elle avait pas le temps pour nous à midi, on allait manger chez la mère à Christophe parce que c'était notre maman de jour en fait. Donc ça a été des moments pour ma sœur, des moments pour moi. Avec leur famille, tu vois. son frère, avec sa mère, avec son père. Son père n'était pas forcément là tout le temps parce qu'il bossait, mais...
Ouais. Alors, je suis Isabelle Schmin, la maman de Laetitia et Julia. Et j'ai connu... j'habite à Glan depuis bientôt 40 ans. Alors, ouais, ça, c'est très drôle, hein, parce que... On avait une copine qui faisait du pain le mercredi. Alors on faisait toujours des tartines à midi avec mes enfants. Puis Julien, il a raconté à Christophe, à sa maman, comme quoi, tu sais maman, il y a une famille pauvre dans l'immeuble. Le mercredi, ils mangent que des tartines. Et c'est comme ça que Mona, une fois, elle est venue, puis elle me dit, est-ce que je peux inviter Julia pour manger mercredi et tout. Donc je ne savais toujours pas cette histoire que Christophe avait dit. Hein. Puis j'ai dit, ouais, il n'y a pas de souci et tout.
Et justement, je disais toujours à ma mère, ouais, bah, je vais chez Christophe, machin, machin, machin. Et puis je sais que lui a raconté à sa mère qu'il avait un ami à lui qui mangeait que du pain et tout, machin, le mercredi, il mangeait que du pain, et que ça faisait mal au cœur et tout ça. Puis sa mère, grand cœur et tout, machin, elle a dit, ah, bon, on va l'inviter à manger tous les mercredis. Oh, pardon. Et puis du coup, elle nous a invités à manger, elle m'a invité à manger tous les mercredis. Pardon, c'est mon fils.
Malo, chut, pas faire de bruit.
Et du coup, bah, en fait, une fois, ma mère, elle a voulu savoir pourquoi... Enfin non, sa mère a voulu savoir pourquoi je mangeais du pain tous les mercredis, quoi. Du coup, elle était allée monter, puis elle a été voir, parce que moi j'habitais au 10e, lui habitait au 6e, et elle est montée pour aller demander à ma mère pourquoi je mangeais du pain tous les mercredis. Et puis, bah, ma mère, elle lui dit, non, bon, c'est les enfants, ils disent beaucoup de bêtises, ils mangent pas que du pain le mercredi et tout ça, machin. Et puis elles ont commencé à sympathiser, et c'est devenu un peu des meilleurs amis, on va dire que... après, par la suite, quand sa mère est tombée malade, ma mère l'a beaucoup épaulée et beaucoup restée auprès de la maman Christophe, quoi.
Puis après, bah, on a sympathisé et puis on se voyait bah, tous les jours. Et ouais, c'était très marrant. Bon, on buvait le café ensemble tous les matins. On passait des moments extraordinaires parce que c'était une personne très joviale, hyper joviale. Elle avait toujours le sourire, elle était toujours de bonne humeur.
Et puis, ouais, bah, malheureusement, ouais, avec les maladies qu'ils ont eues, ouais, y a plein de trucs qui sont devenus vraiment ben pas drôle quoi, dans le sens une fois qu'on arrive vers l'adolescence, ben moi il y a mes parents qui se séparent, du coup je me retrouve à habiter avec mon père au Perreret. La mère de Christophe, elle d'abord elle est tombée malade, puis ensuite elle est décédée. Je me rappellerai toujours le jour de son enterrement.
Je me souviens qu'on savait dans le quartier que sa maman était malade. D'ailleurs, à partir d'un... C'était quand même une figure assez centrale de la place de jeu. Et à partir d'un certain moment, dans mes souvenirs, elle n'est plus là. Et puis, c'est beaucoup plus son père qui était là. Je me souviens notamment d'un anniversaire qui avait été organisé dans le Carnot Z de leur immeuble, où c'était son papa qui s'était occupé de nous. Et j'aurais de la peine à dire quand sa maman est décédée. Mais on savait qu'elle était malade. Ça, on savait.
J'ai eu cette nouvelle qui m'a un peu bouleversée parce que, bien sûr, je ne savais pas que Christophe était malade. Par contre, j'avais appris pour sa maman qu'elle avait aussi été très gravement malade et qu'elle était décédée. Et là, je ne sais plus en quelle année, mais... Ce dont je me souviens, c'est que plusieurs personnes de son quartier étaient révoltées, quoi, disaient, mais c'est horrible, cette pauvre femme qui est décédée, et puis ses enfants qui sont aussi malades. Je me souviens qu'il y avait eu, parmi plusieurs personnes, une certaine révolte.
moi, je me rendais pas compte que ça pouvait aussi les toucher, eux. On savait pas si c'était génétique ou quoi que ce soit. Et même Christophe, je crois qu'il se rendait pas compte. Et Christian, peut-être un peu plus, parce que lui, il était vraiment plus réfléchi et il cherchait les choses plus loin. Puis ce qui m'a marqué, c'est qu'une fois, on fumait une clope sur mon balcon et il avait vu comme un gonglion ou un petit truc qui le gênait. Puis il disait, ah, faut que j'aille faire contrôler. Et là, ça m'a un peu fait peur. Et je me suis dit, merde. Parce qu'au début, ça s'attaquait que aux femmes de la famille. Et puis, ben, quand ça a tout commencé à Jonathan, ben, c'était déjà moins sympa. Parce que ça pouvait atteindre les hommes quand même. Et c'est vrai que moi, je m'y attendais pas trop qu'il pouvait être malade. Je pense que je voulais pas y imaginer ça, quoi.
Franchement, je saurais pas dire si je savais à l'époque qu'elle était malade ou si j'ai appris par après qu'elle était malade à ce moment-là et que du coup je me dis que je savais. Ouais, ça je sais pas à quel point je savais à l'époque. Il me semblait que même après, quand il a fini l'école, enfin que ça restait un peu compliqué dans plein d'aspects de sa vie, mais je pense que même lui savait pas que ça pouvait être lié à une maladie. Enfin, pensait que c'était juste des problèmes. Enfin, un peu, comment dire, des séquelles d'une enfance un peu difficile ou de la scolarité pas facile, enfin, comme ça, mais que c'était lié vraiment à des problèmes neurologiques ou à un problème de santé. Non, enfin. Ça, je l'ai appris que quand tu m'as dit.
Ouais, j'ai peu de souvenirs de ça. Je me souviens de la période où elle était malade, dans le sens où pour moi c'était quelque chose de... J'ai pas de souvenirs clairs, on va dire, distincts de ça, mais oui, je me souviens qu'elle était malade, et oui, je me souviens qu'elle est décédée. Je me souviens être allé, je pense, avec ma mère au cimetière, à Gland, où elle est enterrée. Et puis... je me souviens aussi être allé parce que ma grand-mère qui habitait à Gland aussi est décédée en 2001, et puis du coup ben, elle est aussi enterrée à Gland, et je me souviens d'être allé moi quand j'avais peut-être 18 ans, quelque chose comme ça, quand je suis allé une fois spontanément par moi-même au cimetière pour voir ma grand-mère où elle était enterrée. Et puis je me suis dit, ah mais tiens, je me souviens qu'il y avait Mona qui était enterrée ici aussi. Puis je suis allé voir. Je me suis baladé un peu dans les allées, puis tout cas je l'ai trouvée, elle est là, voilà. Mais concrètement, de cette époque-là, de sa maladie, de son décès, j'ai pas de souvenir très précis ou clair de ça. Là aussi, je pense que c'était quelque chose de pas agréable et de dur émotionnellement, je pense, pour moi aussi, hein, je veux dire, un copain qui perd sa maman. Et je pense que mon cerveau, il a fait son job de dégager ces souvenirs-là. Ouais.
Bah ouais, quand j'allais voir Christophe, ouais, elle était là, petite anecdote comme ça, elle nous avait payé un McDo. Elle avait une petite Corsa, une petite Opel Corsa à l'ancienne, bleu ciel, je crois que c'était, grise ou bleu ciel, je sais plus. Et ouais, elle nous avait payé un McDo et tout ça. Super gentil. Avec moi, très très gentil, ouais. Et puis après, bah, j'ai pas pu trop... Après, je la voyais plus trop parce que... Ça allait plus trop non plus, quoi. Après, quand j'allais chez lui, j'allais pas trop dans la chambre la regarder ou quoi. J'étais trop petit, j'étais gamin, quoi. Je savais qu'elle était là dans la chambre et que ça allait pas super, mais... Donc... je pense que... Par pudeur et tout ça, il voulait pas non plus trop me montrer ce côté-là, quoi. Ce que je peux comprendre.
Ouais, après, des trucs un peu plus... qui m'ont marqué, moi, peut-être moins lui, tu vois. Quand sa mère a commencé à être malade, je me rappelle que je dormais chez lui. Et puis sa mère... en fait, elle vomissait. Et du coup... Putain, moi j'étais choqué, t'sais. J'étais là, ah, mais attends, c'est quoi ce bruit, tout machin. Puis lui, t'es tout tranquille, il me disait, ouais, bah, c'est ma mère qui vomit. Ma mère, elle est malade et tout, elle vomit. Et moi, ça m'avait tellement marqué, tu sais, ça m'avait tellement marqué que ça m'est resté longtemps où je pouvais plus entendre des gens vomir. Enfin, tu sais, ça me... C'est une crise d'angoisse, carrément. C'est quelque chose de... Ouais, j'aimais pas ça, quoi. Et lui, c'était tellement normal. C'était tellement... ça, je pense que ça faisait déjà un petit moment que ça, on était malade. Mais nous, on était petits, donc du coup, ça, on nous le cachait, tu vois. Enfin, moi, ma mère était pas en train de me dire, ouais, sa mère est malade, machin. Puis lui, bah, je sais même pas s'il... Enfin, il savait que sa maman était malade, il allait la voir à l'hôpital et tout ça, mais il se rendait peut-être pas compte forcément de ce qui se passait. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre. J'étais là, putain, c'est tellement normal comme il dit ça. Oh, c'est ma mère qui vomit et tout. Et puis quand je me suis réveillé le lendemain matin, tu vois, il avait dit à sa maman, ouais, Julien, il a eu peur et tout cette nuit. Et puis sa mère, elle a dit, mais non, faut pas avoir peur, j'ai une méchante gastro, je vomis un petit peu, mais c'est rien de grave et tout, machin. Elle minimisait la chose, tu vois. Et je me rappelle, c'est après par la suite, quand j'ai un peu grandi, puis je me suis dit, mais en fait, elle était tellement malade, et puis que, tu sais, elle faisait comme si de rien n'était, mais... Enfin voilà, quoi, c'était pas... C'était grave, quoi.
Bon, elle m'a parlé de sa maman qui est aussi décédée du cancer. Enfin, ils sont tous décédés. Elle m'a dit que dans leur famille, ils ont eu tous les cancers impossibles et inimaginables. D'ailleurs, sa tante qui habitait à Lausanne, elle a aussi eu Narguisse, elle s'appelait. Elle était très souvent à Gland. Elle aussi, elle est décédée de ça, quoi. Ils sont tous décédés de ça. Jonathan, il est décédé de ça. Sa sœur, elle est décédée de ça. Ça lui a fait... Elle était très, très triste quand elle a perdu sa sœur. Donc, ouais, c'était pas facile pour elle. Donc, évidemment, quand on lui a proposé de faire de la chimiothérapie, elle a toujours dit, je ne veux pas le produit rouge. Parce que c'est ce qui faisait perdre les cheveux. Et deux fois par semaine, je l'amenais au CHUV pour faire qu'elle fasse sa chimiothérapie. Parce qu'au début, elle ne voulait pas. Elle refusait. Parce qu'elle détestait les médicaments, Mona. C'était une horreur de lui faire avaler un médicament. D'ailleurs, il fallait... J'achetais une canette de coca, du chocolat pour qu'elle puisse avaler un médicament. Puis après, elle est partie à Bâle. Sa tante lui a dit, va essayer de faire soigner là-bas à Bâle. Et puis on se téléphonait tous les jours. Et puis je voyais pas, elle toussait toujours autant... Je voyais pas d'amélioration. Puis un jour, elle me dit, tu sais, Isabelle, j'en ai marre. Tu viens me chercher à Bâle. Je sais par où faut partir pour sortir. Puis c'est vrai que j'étais à deux doigts de le faire. Puis finalement, on a raisonné autant l'une que l'autre en se disant, c'est pas possible. Il lui arrive quelque chose sur le chemin du retour. Ce sera terrible. Moi, je vais en prison. Puis pour finir, c'est Antonio qui est venu la chercher d'un commun accord avec l'hôpital là-bas, à Bâle. Et puis elle a fait deux jours à la maison, puis après elle a fini aux soins intensifs à Nyon. Et là, elle me disait toujours, tu viens me voir, hein. Je lui dis, mais aux soins intensifs, on n'a pas le droit. Puis elle me dit, si, t'inquiète, je vais leur dire que t'es ma sœur. Elle, noiraude, hein, mes amis, moi, blonde. Mais bon, ça marchait, et puis j'allais souvent la voir aux soins intensifs. Même que je prenais ses médicaments à sa place, pour pas qu'elle ait une histoire. Bon, ça, c'est une monstre connerie, mais bon, je l'ai fait. Puis après, elle est partie à J. Puis à J, j'en ai nettement moins souvent parce qu'elle avait perdu tous ses cheveux. Mais on se téléphonait toujours. Mais elle savait très bien pourquoi je n'allais pas la voir. Parce que c'était terrible pour moi de la voir comme ça.
Ma maman, qui a aussi vécu les mêmes choses que moi, on était vraiment en contact avec la famille. Et puis, ben, qui a été là quand Mona est décédée. Donc la dernière nuit où la maman à Christophe est décédée, ben, elle a passé toute la nuit avec elle. Et je me rappelle qu'on s'était réunis avec plusieurs personnes chez Christophe, donc à la Cité Ouest, le soir même, puis on discutait et tout de ça. On se rendait pas compte qu'elle allait partir cette nuit, on savait que c'était très proche, mais voilà. Donc on avait été tous à l'hôpital l'après-midi, et puis ben le soir on s'était tous réunis chez eux à discuter. Et puis ben, le lendemain, elle est décédée.
Là, on l'a pas mal... moi, je l'ai aussi pas mal accompagnée. Parce que j'allais l'amener, la rechercher. Quand elle allait à Genolier faire ses rayons, ses chimios et tout. Et puis, mais elle a supporté ça avec courage parce qu'elle voulait pas le faire au départ. Elle l'a fait pour ses enfants parce qu'elle pensait que... qu'elle survivrait par rapport à ça. Elle a été très courageuse jusqu'à la fin. Moi, j'ai passé la dernière soirée, la dernière nuit à la clinique où elle était avec elle, parce qu'il ne la nourrissait plus, lui donnait plus rien, enfin, elle partait comme ça. Et puis le lendemain, je lui avais expliqué que tous ses enfants allaient revenir lui dire au revoir. Et elle a attendu jusqu'à que tout le monde passe. Julie, Christian, Christophe, Jonathan. Et après, elle s'est éteinte. C'était assez prenant. C'était vraiment très triste. Mais bon, ils ont tous été très courageux. Et c'était vraiment très difficile.
Puis le dernier jour, j'ai demandé aux enfants, c'était quand même important qu'ils me donnent le feu vert, hein, si je pouvais dire au revoir à Mona, puis si je pouvais être toute seule avec elle. Ils m'ont dit, ouais, non, il n'y a pas de souci et tout. Donc je lui ai dit au revoir. Et je suis rentrée. Quand je suis entrée, on m'a dit qu'elle était décédée.
Que vous dire de plus, c'était des gens extra, Mona. J'ai des souvenirs magnifiques. Bon, elle est décédée, elle avait 40 ans, c'était vraiment très jeune. Mais le jour de ses 40 ans, elle était là avec Cathy, qui était aussi une de ses amies, qui était prof à Gland. On a été la trouver à l'hôpital et on a passé sa journée de 40 ans avec elle. Puis quelques temps après, elle est partie, sans tout. Il y aurait mille choses à raconter, parce que c'est des gens tellement, tellement gentils, tellement... Elle leur a donné sa chemise pour tout le monde, elle était vraiment adorable. Elle était toujours prête à aider tout le monde, elle était vraiment magnifique. Elle reste tout le temps dans mon cœur et quand je vais à Gland, puisque j'habite plus à Gland, je viens lui faire un petit coucou. Il lui a amené une petite fleur. Voilà. Que dire de plus d'une personne aussi positive et aussi magnifique que ça.
Khalou, c'était le frère de Mona. Il s'appelle Walid, mais Khalou, c'est tonton en arabe. Et puis je savais pas, donc moi je l'appelais toujours Khalou, puis Mona elle se moquait toujours de moi, quoi. Puis bon, il m'a fait écouter des cassettes de Mona qu'elle avait fait 2-3 semaines avant de mourir, qui m'ont énormément touchée. Parce que j'ai perdu des amis à cause de ça. Parce qu'on m'a dit, ouais, t'étais jamais là pour Mona et tout. Alors qu'elle savait très bien que j'étais toujours là. Et le fait que Ralou me fasse écouter ses cassettes, ça m'a soulagée. Elle m'en voulait pas du tout, puis c'était le principal.
Non, j'étais pas à l'enterrement de sa maman parce que tout simplement à l'époque où il a perdu sa maman, on était proches certes, mais on n'était pas proches au point où on aille à l'enterrement de sa maman, etc. Mes parents et ses parents se connaissaient parce qu'ils se croisaient, parce qu'on habitait dans le même immeuble. Mais on n'était pas aussi proche que ça.
J'ai un souvenir, mais un souvenir moche. Après, je peux le raconter quand même, parce qu'on va dire que c'était un peu... On va dire que c'était un peu l'adolescence de son frère, tu vois. Je me rappelle qu'il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il venait de perdre sa mère, il y avait un peu tous ses potes, et puis, genre... ça allait, tout va bien, mais c'était un peu ce truc de carapace de nouveau, tu vois. Et puis c'est qu'il était dans l'âge con, quoi. Mais c'est ça que je me souviens, en fait, de cet enterrement qui m'avait marqué quand j'étais petit, quoi. C'est le seul truc vraiment qui ça m'avait marqué. Après, je sais que ça a été très difficile pour ma mère aussi à l'époque. Ça... Pour moi aussi, parce que sa mère voulait me marier. Elle disait toujours « je te pisse au cul » et qu'elle voulait me marier et puis qu'elle voulait pas du tout marier Jacques Alain. Parce que Jacques Alain, il avait dit que sa mère, elle avait des bras ou des pieds en plastique. Hein. Ça avait très mal passé. T'as pas parlé, Jacques Alain, de ça?
Je me souviens, comme si c'était hier, je me souviens de quand on était au cimetière, qu'on a mis le cercueil en terre. Je me souviens du visage de Christophe et de Christian, comment ils avaient la haine aussi, quand on leur a enlevé leur mère et tout.
Oui, j'étais là à l'enterrement de sa maman, oui. J'étais là. Je me rappelle juste de l'enterrement de sa maman. Oui. Je me rappelle qu'on était dans le cimetière à Gland, puis que... Je me rappelle juste de ce moment-là, en fait. C'est tellement lointain. Enfin, c'est peut-être mal placé ce que j'ai dit, mais on était tellement jeunes que c'est le seul souvenir que j'ai qui me reste. C'est celui-là.
Mais j'ai pas l'impression que c'était... j'ai l'impression qu'il faisait beau ce jour-là, non ? Je me souviens de deux choses. C'est un peu bête hein, ce que je veux dire, mais de deux choses assez distinctes. En fait, à cette époque-là, Christophe, il sortait avec Joy. C'était sa copine. Et en fait, je me rappelle que son ex-copine, à cette époque-là, j'ai l'impression qu'elle surjouait le truc et ça m'énervait plus que tout cette journée-là. Et ça m'a énervé pendant longtemps. C'est que j'ai l'impression qu'elle faisait tout pour... enfin bref... C'était mon impression quand j'avais cet âge-là, quoi. J'avais 16 ans, quoi. Donc je peux pas... Voilà. Mais c'est comment je l'avais vécu, à l'enterrement.
Je me rappelle à son enterrement aussi. Il était KO. L'enterrement de sa mère, elle était KO. Je me rappelle très bien.
T'arrives à me raconter ce que tu te souviens de l'enterrement?
Ouais, bien sûr. On était à l'église du clan. Bon, on était beaucoup d'élèves aussi, hein, t'es sûr, les copains et copines de classe, de l'école. Parce que nous, on n'était pas dans sa classe, on était plus petits. Et il y avait beaucoup de sa classe, et ils se soutenaient l'enterrement. Du coup, moi, j'avais fait une lettre avec Brice, un pote, pour aller à l'enterrement. L'école, elle savait. Et ils ont accepté, du coup, on est allé à l'enterrement. Ils ont fait leur discours, comme ça se passe à l'église. Après, il y a une scène qui m'a marqué à l'enterrement de sa mère. C'est la scène où il se met à quatre pattes sur les genoux. Et là, il commence à pleurer vers la tombe. J'ai l'impression qu'il voulait rentrer dans la tombe. Je sais pas si... Je sais pas, mais cette scène, elle m'a vraiment choqué. Et c'est là que tout le monde a commencé à pleurer, en fait. Tout le monde a commencé à pleurer à ce moment-là. En tout cas, moi. Après, juste avant de l'enterrer, mettre le... Une fois qu'ils l'ont descendu dedans, et juste avant de mettre la terre, et il a crié quelque chose, je sais plus ce qu'il a dit, et c'est là que tout le monde a commencé à pleurer, en tout cas tous les élèves, tous ses potes qui étaient à l'école et tout ça. Et ça, ça m'avait choqué. Même moi, qui était, j'étais petit, hein. Et ça m'avait un peu choqué aussi. C'était mon premier enterrement, un enterrement que j'assistais.
Alors, pour l'enterrement de sa maman, il y a un truc qui m'avait marqué de ouf, c'est quand on sortait de... Déjà, il y avait la musique que Zouz a réécoutée pas mal de fois. Je pourrais même plus dire qui c'est qui chantait ça, mais c'était une musique assez émouvante. Mais à la sortie, je me rappelle qu'il y a donc le frère à sa mère, son oncle, qui est parti vivre au Caire, là. Il se tapait la tête contre le cercueil. Tu te rappelles un truc comme ça, toi ? Il se tapait la tête contre le cercueil, tout, il hurlait, tout, et ça m'avait marqué, en fait. J'ai trouvé ça tellement... Enfin, il venait de perdre sa deuxième sœur, en fait, parce qu'il y a déjà sa première sœur qui était décédée, et tout, machin, il y avait sa deuxième sœur. Lui, en fait, ça a été un peu comme Zouz, en fait, tu vois, sauf avant, il a vécu ce que Zouz a vécu, il perdait toute sa famille, quoi. Et je me rappelle ça, quoi. Il avait porté le cercueil, il l'avait mis dans la voiture... Je me rappelle qu'il était encore il l'avait posé dans la voiture, il avait le coffre ouvert. Il se tapait la tête comme ça contre le cercueil. Il disait pourquoi, il hurlait et tout. Puis personne n'osait aller vers lui pour dire calme-toi et tout, parce qu'il fallait qu'il explose, quoi, le gars, tu vois. Mais ça, je me rappelle, ça m'avait marqué. En plus, on était petits, nous, tu vois. Et moi, j'étais vite marqué pour plein de choses aussi. J'étais assez. tout me choquait, tout me. Enfin, je sais pas, ça m'était resté, c'est vraiment cette détresse qu'il avait, quoi, c'était violent. Après, je sais pas si toi ou quelqu'un d'autre t'a raconté ça, mais voilà, quoi.
Et ce Ferreur, on avait une espèce de réception après, si je me trompe pas, dans Grand Champ, si je me rappelle bien. C'est un peu un souvenir qui pop-up et que. L'ambiance, ça allait, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait quand même les gens qui étaient ensemble, quoi. C'est un peu la vision, puis un peu ce qui me revient un peu, tu vois. Un peu la salle, les gens. Mais après, plus que ça... Mais je me souviens aussi que j'ai beaucoup chialé, ouais. Clairement. Ouais. Ça a été quand même un choc, tu te dis, quand même. Ouais.
Et après, justement, chez les catholiques. Après, je sais pas si tous les catholiques, je sais pas, parce que moi je suis musulman. Mais chez les catholiques, je crois qu'ils font un petit apéro, ou je sais pas quoi, après le décès. Mm-hmm. Ils boivent du vin, ou. Ça aussi, ça m'avait fait un peu bizarre. Parce que ça m'avait choqué un peu. Parce que nous, c'était pas du tout la même tradition. Nous, chez nous, il n'y avait pas de musique, tout éteint, déprimé à fond. Alors que eux, ils faisaient un peu pas la fête, mais il y avait une petite musique, un petit vin.
Après, ben, il y a eu le décès de du cousin à Christian et Christophe, Jonathan, où on était de plus en plus proches. Et puis, ben, on a vu, c'était surtout la tante qui était malade. Après, ben, il y avait Mona qui est tombée malade. Où on a beaucoup été à l'hôpital, la voir, la réconforter. Elle est restée très longtemps à la maison, plutôt bien. Là, ben, c'était un peu très dur quand même pour moi. Et surtout en pensant à eux. Et puis, ben, c'était un peu les premières fois où j'étais confrontée à la mort. Donc ça, c'était vraiment pas évident. Je l'ai plutôt mal vécu quand même. Parce que c'était un peu ma deuxième maman. Et Donc j'ai toujours dit à Christophe et à Christian que ben, ma maman, c'était leur deuxième maman, que s'il y avait quoi que ce soit comme problème, on était toujours là pour eux, vu que Mona était toujours là pour moi depuis le début.
Je me rappelle une anecdote, c'est fou parce que on était avec son cousin, on était derrière Grandchamp en train de galérer parce qu'on faisait que de galérer. Et tout allait bien. 3 mois après, paf, j'entends quoi? Il est plus là. Je dis, putain, on savait qu'il avait un problème à la jambe. Mais on savait pas exactement. Après, il nous avait pas parlé, mais. C'est tac, tac, vous savez, tellement vite.
Après, plus tard, ben, il y a eu le décès de Jonathan. Où là, ça a remis une couche. Avec tout ça, qui n'était pas forcément évidente aussi, bah, il vivait avec Mona et sa famille, donc Christian et Christophe, donc oui, je le... Après, j'étais aussi petite, hein, mais je sais que son père, il était sur Genève, et puis il venait de temps en temps le chercher, mais autrement, il vivait constamment avec Mona. Donc moi, j'ai connu toute la famille Rallo, tous les cousins à Christophe, à Christian. C'est l'oncle Christophe, qui est aussi atteint d'un cancer, je crois, et puis qu'il est en Égypte. Lui est parti en Égypte. Donc j'ai connu toutes ses cousines, une cousine justement qui s'appelait Mona aussi. Donc j'ai connu pas mal Jonathan, ouais. C'était vraiment quelqu'un de bien, il était assez calme comme garçon, respectueux, bah, c'est ça surtout les garçons, les trois, ils étaient vraiment respectueux, gentils, polis avec tout le monde, c'est surtout ça qui ressortait d'eux, quoi.
Bon, Christian, du coup, pour moi, c'était le grand des grands. En fait, moi, je faisais du basket, et lui, il en faisait aussi. Et avant d'en faire en club, je tapais un peu la balle dans les parcs à l'extérieur. Et du coup, c'était les premières fois où j'ai pu jouer avec ou contre. Voilà, c'était pas du 1-1, mais c'était dans les équipes. Et c'était quelqu'un de vachement... très discret, de mon souvenir, il était super discret, assez chou, et il mettait volontiers, assez juste aussi dans le choix des équipes, hein, voilà. Pas quelqu'un qui se mettait beaucoup en avant, mais ce à quoi je pensais, c'est plutôt, mon papa, il avait, pendant 9 ans, il a eu un restaurant dans les Hauts-de-Nyons, qui s'appelle l'Orange Mécanique, et il se trouve que, moi j'ai grandi de mes 13 à 21 ans un peu dans ce contexte hôtelier, et puis je me rappelle qu'il venait avec sa copine de l'époque ou sa femme, et c'était un peu étrange pour moi parce que je l'avais vu dans un contexte bien particulier où je me rendais compte aussi que j'étais un petit, que lui c'était un grand, et il n'y avait pas de truc étrange entre nous. À chaque fois il venait, il me saluait et il me considérait, alors que moi du coup j'étais le tout petit, et j'étais super content. Donc voilà, les premiers rapports que j'ai eus avec Christian, c'était simplement que je lui faisais ses pizzas, mais que voilà, j'étais un peu tout, j'étais un peu, je voyais que il était juste chill et tranquille, et enfin voilà, je le voyais un peu comme une force tranquille. Donc ça, c'était Christian, que je voyais assez différemment que Christophe pour le coup,
qui a... Je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas un suivi parental, parce que ce n'est pas vrai. Son père, moi, comme je me rappelle, il était ultra strict avec Christophe à l'époque. Mais il avait un truc à combler. Mais je ne saurais pas dire quoi, mais je voyais qu'il y avait quelque chose qui était différent avec les autres enfants, quoi. Alors que Christian n'était pas du tout comme Christophe. Christian était totalement... l'opposé, il était ultra posé, il se cultivait, il était hyper calme, alors que Christophe, il était tout le temps en vadrouille, ultra excité, etc. C'était vraiment deux frères, mais c'était l'opposé, quoi.
Christian, il était beaucoup plus... il était très studieux, Christian. Et ouais, on a passé des moments extraordinaires, quoi.
Et je sais pas si toi ou d'autres personnes se souviennent de ça, mais il me semble que Christian ne ressemblait pas du tout à Christophe. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais il me semble que il avait un autre type, c'est-à-dire Christophe, lui, il a la peau mate, les cheveux bruns, et que Christian était plus blond et même aux yeux clairs. Mais alors ça, comme je ne l'ai plus jamais revu, je ne suis pas sûre.
Christian, c'était un pote à nous aussi, on est bien d'accord, sauf qu'il était plus âgé que nous. Du coup, il n'avait pas trop la même mentalité que nous. Il était niveau études, il était un peu plus posé que nous. On ne parlait pas la même chose, le même langage. Nous, on parlait plus de drogue, sexe, alcool, machin, alors que lui, il était plus calé sur les études. Mais il était là. Et quand on demandait quelque chose, quand on ne savait pas un truc entre nous, Christian, tu peux nous dire comment c'est quoi ? Et il répondait à tout, tellement que c'était une tête. C'était une tête, il savait tout.
Christian, il avait énormément d'amis, ouais. Moi, à chaque fois que j'allais chez eux, au sixième étage, à la Cité Ouest, il y avait souvent des amis de Christian qui étaient là. C'était des gens, comment dire, il avait un peu des amis de toute catégorie. Il avait autant des gens qui aimaient étudier que des gens sportifs, que des gens fumeurs de joint. Il avait vraiment des... En fait, Christian, c'était vraiment l'ami que tu pouvais avoir qui, comment dire, qui passe partout, qui va partout. Tu peux hyper présentable. Christian, il parle bien, enfin, il s'exprime bien, il est poli, il est grand, il présentait bien. Enfin, ouais, je pense que Christian, c'était l'ami idéal à avoir. Ouais. Et même quand j'étais chez Christophe, quand on était les deux, on discutait, on était deux teubés, on rigolait pour rien. Des fois, il devait se dire, mais c'est quoi ces clowns, quoi. Et pourtant, il discutait quand même avec nous, il nous apprenait la vie, certaines choses, etc. C'était cultivant d'avoir Christian dans ton entourage. Moi, je l'appelais Wikipédia.
Bah, Christian, bah, je l'ai connu, ça allait bien. Hein, il avait forte corpulence même. Il pétait la forme, le gars. On était gamins, hein, lui, il était plus grand que nous. Mais... Et c'était un bon vivant aussi, hein, vraiment. Et puis, ça a commencé à se détériorer super fort. Et puis... Bah, j'allais le voir à l'hôpital parce qu'ils se sont fait opérer au même endroit en fait, les deux. Puis, je suis allé le voir quasiment jusqu'à la fin, quoi. Après, ça devenait un peu trop, quoi. C'est des choses qui sont compliquées à regarder en face. Quand on a de l'amour pour les gens, c'est compliqué. Mais c'était quelqu'un de très réfléchi, Christian, très intelligent, très plein de culture. C'était vraiment un bon. C'était vraiment un bon gars, très, très dans la sagesse.
C'était une période où je le voyais un peu moins. Parce que... Parce que son frère qui était déjà atteint de la maladie, il vous voyait beaucoup son frère, il était beaucoup sur Lausanne, il était beaucoup... Il était beaucoup avec lui, beaucoup. Il avait d'autres occupations. Je sais pas pourquoi. J'ai un petit peu de mal à me souvenir de cette période. Je saurais pas pourquoi te dire pourquoi on se voyait moins. C'est vrai que c'est une période où on s'est vu moins. Et d'ailleurs, quand j'ai appris pour sa maladie, je l'ai pas appris par lui. Je l'ai appris par quelqu'un d'autre. Où au début, carrément, c'était un petit peu un truc tabou et limite secret. On savait pas. Son frère, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où ils ont appris pour son frère, pour Christian, j'avais pris le train avec lui. On prenait le train ensemble le matin, moi pour aller au travail, je descendais à Renan, et lui il continuait, il travaillait je crois à la FNAC de Fribourg ou quelque chose comme ça. Et lui il continuait de prendre le train. Et ce jour-là, on s'est vu avec Christian. On s'est vu avec Christian, tout allait bien, etc., dans le train. Et ensuite, on s'est eu au téléphone avec Christophe. Christophe qui m'appelle, qui me dit « Ouais, est-ce que t'as vu mon frère ce matin ?»« Ouais, j'ai vu ton frère ce matin. Ouais, t'as pas... Est-ce que t'as appris ?» Je lui dis « Non, je peux... » Il tombait dans les vapes au travail, je crois, ou je sais plus, je sais plus exactement. J'ai dit, écoute, moi, je l'ai croisé ce matin dans le train, tout allait bien. Je vois, enfin, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu. Et je me souviens qu'à l'époque, Christophe, il savait. Il me disait, moi, je sais, les médecins, ils veulent pas me dire, mais moi, je sais. Je sais que je suis persuadé qu'il a la même chose que ma maman. Il le savait.
D'ailleurs, son frère, c'est la même chose. Il a grandi avec. C'est horrible. Je le voyais moins, mais à l'époque de la Cité Ouest, quand son père est parti au Portugal, il a gardé l'appartement. On y allait tout le temps, on traînait tout le temps chez lui, tu vois. Et son frère, après son frère, il est parti vivre avec un de ses potes, mais sinon, ils étaient vraiment liés, tout le temps ensemble, quoi. Je pense que c'est un peu le truc qui l'anéantit, quoi, perdre son frère, quoi.
Puis voilà, il s'est fait, après, il s'en fait tout seul, les deux frères. Et franchement, ils avaient une complicité de malade entre les deux, quoi. Parce que justement, ils se sont retrouvés sans mère tôt. Et après, son père, il est parti au Portugal. Du coup, ils n'avaient pas le choix de s'entraider. Et ils étaient comme ça. Ils étaient attachés.
Et puis après, je l'ai croisé quelques fois. Et puis ça se voyait qu'il avait sa cicatrice suite à son opération. Et puis... Ouais, je l'ai vu assez souvent. La dernière fois que je l'ai vu, c'était une fête chez vous, à Etoy.
Ouais, moi je l'ai pas appris tout de suite, mais du coup, il a fait sa crise d'épilepsie. C'était un peu le même, la même tournure que son frère. Tu sais, son frère, il a fait la crise d'épilepsie au travail aussi et tout. Mm-hmm. Du coup, lui, ça a été un peu la même chose. C'était en allant au travail, je pense qu'il t'a un peu raconté.
Avant ça, il disait souvent qu'il avait envie tout le temps de vomir.
Ouais, il y a eu des phases comme ça, ouais.
Constant, tout le temps.
Mais il vomit seul le matin, tout le
monde. Après, il a fini par vomir le matin. Et après, il y a eu quelques mois, bien plus tard.
Les odeurs.
Des odeurs, il y avait des odeurs. Et après,
son frère lui a dit, j'ai des odeurs de brûlé. Et quand Zouz a commencé à avoir ces trucs, il a su direct, tu vois. Il a dit, putain, je pense que je suis malade comme mon frère. Mais moi, je me rappelle que, rappelle-toi, hein, il m'a appelé, on habitait à Comigny. J'étais en train de faire à bouffer ou j'étais à la cuisine. Il m'a appelé, il m'a fait sa vieille blague. Il m'a dit, ouais, tu sais que j'ai une tumeur et tout, machin. Je l'ai pas cru sur le moment. Après, il m'a dit, ouais, non, enfin, je rigole pas et tout, vraiment. Toujours en mode plaisanterie, tu sais, le gars. Toujours, là, il est en train de te dire qu'il a une tumeur, tu sais. Et il rigole avec ça, quoi. Et je sais que j'avais pas craqué tout de suite, mais j'ai craqué après. Hein.
T'as craqué tout de suite?
Non, pas au téléphone avec lui.
Si.
Ouais, ou peut-être, alors, mais j'ai vite coupé court. Ouais, allez, ciao. Après, je me rappelle bien ça. Ouais, j'avais craqué dans la cuisine, là. Pff, c'est tombé. Trop parler de lui, c'est chiant, quoi.
je te faire ça.
Ouais, t'inquiète.
Et puis voilà, moi j'ai pas trop, après j'ai un peu quand même perdu de vue, et puis ben les fois où on s'est revus, je crois qu'ils avaient déménagé à Lausanne, donc au début Christophe et Christian ils habitaient ensemble je crois, et après ben ils ont pris un appartement avec sa copine, c'est là où je les ai quand même pas mal revus. Et puis, ben, c'est Christian tout d'un coup qui était pas très bien. Et donc là, on a repris pas mal contact. Et moi, j'avais une formation à Saint-Légier. Et c'est à ce moment-là que ben, j'ai vu que ça allait pas du tout dans le bon. Et assez vite. Et ben, je venais tous les midis, entre midi et 2 heures, manger avec eux. J'ai mes sandwichs, j'ai passé 2 heures de temps avec Christian, Christophe. Déjà pour moi, et puis surtout pour eux, pour être présente, et puis ben, leur dire que ben, je serai toujours là pour eux, quoi. Donc je venais beaucoup avec ma maman.
Parce que j'ai le souvenir qu'il ne voulait pas faire... Ah non, mais il y avait une autre opération qu'il ne voulait pas... Non, il avait déjà fait son opération du cerveau, mais il voulait l'opérer du canal de la vue ou un truc comme ça, là où il y avait une tumeur montante, mais c'est qu'en fait, il voulait encore voir son frère. Donc, il avait refusé de faire l'opération. Je me rappelle qu'il y avait un truc comme ça qui était sur la table. C'était l'histoire de pouvoir voir son frère, je crois. Donc il a refusé jusqu'au dernier moment, et puis finalement il ne l'a même pas fait, tant mieux. Puis suite à ça, bah, c'était toujours l'histoire de est-ce qu'il va se faire opérer, et puis on en avait déjà vaguement parlé, tu vois, je lui avais dit, Christophe, tu connais pas, il n'y a pas des autres endroits dans le monde où ça peut, enfin, où ta maladie, elle est peut-être, enfin, des recherches sont faites à un niveau un peu plus avancé, tu vois. Mais c'est vrai que lui dire à lui, puis lui dire à quelqu'un qui est au quotidien avec lui, c'est différent, parce que lui, tout seul, il peut rien faire, quoi. Dans la vie qu'il a décidé de mener et tout ça, enfin, oui, ouais.
Et on voyait que son état se dégradait gentiment. Et puis, mais le problème, c'est qu'après, il y a eu les deux. Vous comprenez, il y a eu les deux. Du coup, j'allais voir, je me rappelle comme c'était aujourd'hui, je vais voir Zouz au CHUV. Je vais voir Zouz au CHUV, et 4 mois après, je vais voir son frère en dessus de Vevey, là, dans le centre. Comment ça s'appelle? Bref, c'est en dessus de Vevey, dans un hôpital de rééducation. Et justement, je vais voir son frère là-bas. Et là, ça fait bizarre quand tu vois, tu sais que le grand est pas bien, plus le petit, et que cette maladie-là est en train de les prendre. Mais ouais, c'est très compliqué, franchement, c'est très compliqué. Et même à la maison, à la Cité Ouest, tu voyais Christian qui se dégradait, genre, on voyait très bien. Petit à petit, il a maigri. Et ouais, ça, après Zouz, il nous disait qu'il est pas bien, machin, mais il nous a jamais, au tout début, il nous a jamais dit qu'il a le cancer, machin, mais ouais, il va pas bien, machin, c'est tout.
Donc moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ben, d'avoir pu être là et puis d'être resté avec Christian jusqu'au dernier moment. Pour moi, ça m'a fait vraiment... pas mal de... Voilà. C'est pas que ça clôt l'histoire, mais au moins ça me permet de dire que bon, ils ont toujours été là pour moi, et puis moi j'ai fait le maximum pour être présente. Et j'ai encore ramené Antonio, Christophe et Alima, je crois, bah, et toutes les affaires à Christian quand il est décédé de l'institut où il était, à chez eux.
La dernière année où Christian était en vie, c'était la période, si je ne me trompe pas, où Christophe il avait fait son opération aussi.
Exactement, exactement. Mais là, justement, je le voyais. On parlait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais on ne se voyait pas beaucoup. On parlait plus. Justement, moi j'avais les enfants, le travail, j'avais pas le temps. Je suis allé lui rendre visite à lui, justement. Après, il y avait lui aussi qui a fini dans l'hôpital en dessus de Vevey, Zouz. Du coup, j'étais allé rendre visite à Zouz aussi. En fait, ils ont fini les deux dans le même champ, quoi. C'est fou, un peu en même temps. Et bah après Christian, bah il est parti. J'ai pas pu assister à son enterrement. J'étais pas là. Mais j'ai beaucoup de potes à moi qui sont allés.
Le pire, c'est qu'il se rendait compte de... Il avait encore toute sa tête, donc il se rendait compte qu'il devenait un légume, que ça allait pas. Qu'il avait le côté gauche ou droite, je sais plus, paralysé, mais le reste... sa tête, ça allait, quoi. Donc au début, il parlait un peu quand j'ai été le voir, et pour finir, ben, il n'y a que Christophe qui comprenait ce qu'il disait. et on arrivait à comprendre avec les yeux et les gestes, mais c'est vrai que... Et il me disait qu'il en avait ras-le-bol, quoi, qu'il comprenait ce qui lui arrivait. Donc à chaque fois, je lui disais, regarde la vue que t'as en face, t'as le lac, t'as les montagnes, c'est magnifique. Et on regardait les bateaux ensemble. Et... Voilà. Mais c'était... C'est quand même dramatique de... Voilà, de... de penser que... Voilà, qu'il allait partir. C'était bien pour lui qu'il parte le plus vite possible, mais c'était pas évident. Et puis, ben, le papa, Antonio, il avait du mal. Du mal à laisser partir, ce qui est normal. Et à la fin, c'est vrai que, ben... Nous, on avait juste envie qu'il parte sereinement et qu'il soit apaisé et qu'il soit bien. Parce que j'avais quand même du mal à le voir souffrir. Voilà. Et de voir souffrir Christophe à côté qui s'accrochait, puis de chaque petit espoir. Parce qu'un jour ça allait un peu mieux, puis l'autre jour ça allait un peu moins bien. Et... Voilà. Je crois que 2 jours avant, j'ai été le voir. On m'a dit d'aller lui dire au revoir. Enfin, que c'était le moment de lui dire au revoir. Et puis, je crois que c'était 2 jours avant. Après, ben, il lui donnait plus à manger. Et puis, ben, il arrivait plus, il se réveillait plus assez pour que Antonio lui donne à manger, parce qu'il a essayé de lui donner à manger le plus tard possible, le plus possible, lui. Et puis, en fait, l'hôpital ne voulait plus lui donner à manger, plus le laisser partir gentiment. Et ben, c'est à ce moment-là que j'ai été le voir, et ben, là, il répondait plus, quoi. Donc j'ai pu lui dire ce que j'avais envie de lui dire, que je l'aimais, et puis qu'on allait prendre bien soin de Christophe. Et puis que, ben voilà, que... qu'on l'accompagne aussi dans cette étape, et puis que maintenant il a le droit de lâcher s'il est fatigué. Mais c'est vrai. Pas facile de dire au revoir, surtout à un jeune de quoi, 34 ans, il avait, je crois. Donc ça, c'est pas facile. Et puis, bah, de voir Christophe, il était effondré, quoi. Surtout qu'ils ont passé H24 ces derniers mois ensemble. Ils étaient collés, ils ne le lâchaient pas. Dès qu'il se réveillait, Christian, il allait dans sa chambre. Dès que Christophe pouvait, il était collé dans sa chambre. Donc là, je pensais encore 3 fois plus à Christophe en me disant, mais il était collé à lui, quoi. Donc pour lui, c'était encore... On lui rajoutait encore... une bombe... qui venait d'exploser et qui devait gérer. Même s'il était entouré, il n'y a personne qui pouvait le comprendre. Enfin, à mon avis. Même si je disais que c'était mes frères de cœur et tout, mais ça, je peux pas comprendre. Il était collé à lui et tout d'un coup, ben, son frère, il disparaît. Puis pour lui, je sais pas si ça lui fait remonter aussi tout, mais... Tous ces deuils qu'on a déjà vécu, mais c'est pas quelque chose de facile. Et en plus, il devait pas pleurer, il devait pas être triste, parce que ça lui faisait mal à sa tête, parce qu'il avait de la pression dans la tête, et il venait de se faire opérer aussi lui. Donc je pense de se mettre dans tous ces états et d'être pas bien, et de devoir trop réfléchir, et... enfin, c'était dur.
Ben, c'était quand même un moment qui était relativement dur. Pour Christophe, c'était l'horreur. Même pour moi, de voir Christophe et Antonio, le père de Christophe et Christian, Christophe, il bougeait dans tous les sens, il pleurait, il voulait pas laisser partir les gens avec le corps de Christian dans la voiture. Franchement, c'était une journée qui était très très chargée en émotions. C'était pas facile. Et je me rappelle, à cet enterrement de Christian, il y avait énormément de monde.
Bah, je me rappelle, moi, on est arrivé. Ça me fait des trucs. En fait, je l'avais jamais vu dans cet état, quoi. C'était... Pff. Ouais, c'était assez compliqué, quoi. C'était vraiment... Je suis arrivé, il m'a pris dans ses bras directs et tout. On a été voir son frère, et puis... Ouais, il voulait être à sa place, quoi. Je pense qu'il voulait pas être le dernier, tu sais. C'est horrible. Mais bon. Voilà quoi. C'est... De toute façon, il y avait trop de souffrance. C'était mieux que ça se finisse comme ça, entre guillemets. Il souffrait trop, son frère. Mais je veux dire, pour lui, ce qu'il vit, c'est trop quoi. C'est... Moi, je sais que ça m'a marqué. D'ailleurs, il y avait tellement de monde. C'était beau. Et voilà, quoi. Et il m'a fait de la peine ce jour-là, putain. Enfin, moi, je voudrais jamais vivre ça, quoi. Enfin, je sais qu'on va tous perdre des gens dans notre vie, tu vois, mais... Lui, il perd tout le monde, tu vois, puis c'est un peu le dernier. C'est ça, c'est horrible. C'est horrible. Alors voilà quoi, c'était un peu le moment triste quoi. Excuse-moi. Mais... Et puis la force qu'il a, tu sais. T'as un peu l'enterrement, tu vois. Je le vois, il arrive à avoir un sourire encore avec les gens. C'est ouf. Le mental qu'il a, ce gars. Laisse tomber. C'est ouf.
Pour moi, la vie de Christophe, elle est chaotique. J'ai jamais connu quelqu'un dans ma vie avec autant d'atrocités dans une vie. Autant de choses à digérer et faire face à des choses qui sont extrêmement dures à voir, quoi. Tu perds ton cousin... Tu perds ta maman. Déjà, quand tu perds ta maman, tu t'en remets jamais. Plus tard, tu perds ton frère. Et après, t'apprends que t'es malade. C'est vraiment c'est le ciel qui s'abat sur toi, quoi. Donc, je comprends l'attitude de Christophe. Je comprends la haine qu'il a envers la vie. Je le comprendrai tout le temps, toute ma vie. Moi, Christophe. Je l'ai connu enfant, joyeux, et je le connais aujourd'hui adulte, joyeux aussi, mais triste, et c'est quelqu'un qu'on veut à la vie, ouais. Comme je peux ressentir ça depuis l'extérieur. Mais ça reste mon ami, ça reste quelqu'un avec qui je peux partager plein de choses, etc. Mais quand on discute avec lui, on peut voir. Ressentir que c'est quelqu'un qui a un lourd passif et qui souffre beaucoup. Donc, pour moi, c'est important de le voir régulièrement parce que je sais qu'il a... Je sais pas s'il a besoin de voir des gens ou quoi, parce que des fois, il montre le contraire. Je pense que dans sa situation, le mieux, ce serait de s'entourer de bonnes personnes et puis de profiter de la vie un maximum, dans son cas. Mais je me mets aussi à sa place et je me dis, putain, des fois, fuck la vie, quoi. Excuse-moi pour le mot, mais... Tout me fait chier, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Et puis, plusieurs fois, je me suis mis à sa place. Mais ouais, c'est compliqué.
Mais les gens qui montent l'Everest, qui font le Mont Blanc, le Kilimanjaro, tout ça, c'est du pipi de chat. Je leur dis, hein, c'est du pipi de chat, les gars. Ils peuvent faire les gars qui font. Qui traversent la Manche ou le Détroit à la nage, c'est du pipi de chat. c'est du pipi de chien. Parce que non, mais parce que pourquoi je t'ai dit ça? Parce que ça, tu te prépares. Tu te prépares pour faire ça. Tu sais, les gens qui font le Kilimanjaro, machin, les gens qui vont faire l'Everest, les gens qui vont faire l'Himalaya, tout ça, machin. Enfin, ils vont se préparer à faire ça. Tu vois? Ils vont se préparer physiquement, c'est de l'entraînement. Au début, même toi et moi, hein, physiquement, on se prépare, on peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mais ça, tu te prépares pas. Tu ne peux pas te préparer. Tu te dis maintenant, quelqu'un, tu lui dis, il va vivre 300 ans. Ok, t'as 300 ans. Pendant 299 ans, tu le prépares à ça, à sa 300e année, juste avant de dire c'est la fin de sa vie, il lui arrive tout ça, il sera pas préparé. Personne n'est préparé à ça.
Mais c'est vrai que c'était pas évident, parce que je l'aimais tellement, cette femme. Et elle me manque toujours. Puis elle doit être fière de Christophe, ce qu'il fait maintenant. Parce qu'il a... Il a changé du tout au tout, quoi. Et il se bat contre cette maladie, c'est incroyable. C'est encore lui qui nous remonte le moral, quoi.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à soutenir Christophe et puis être fort pour lui. Et puis, ben, c'est magnifique comme il arrive à bien se reconstruire, enfin, à se reconstruire et à trouver des choses positives. À sa place, je sais pas comment je ferais.
Ah, ça fait chier, parce que tu regardes Zouz, tu te dis t'aimerais faire quelque chose, et puis tu peux pas faire grand-chose, en fait, hein. Si ce n'est que le soutenir au maximum, essayer de lui changer les idées en le faisant rire, c'est vraiment ça le truc. Sinon, t'es qu'un simple spectateur, malheureusement.
Les Contes de la Cité Ouest, un podcast écrit et réalisé par David Janelas. Musique, Virginie Janelas. Coproduit par le Théâtre Forum Mérin et Radio Bascule.
Radio Bascule.